Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore une fois sur ces ondes de l'amitié et de la fraternité en ce lundi 27 février 2023. J'ai le grand plaisir de vous présenter dans quelques instants le journal d'information et un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Merci de votre écoute. Restez avec nous. Au sujet du nucléaire, l'Iran a été toujours en faveur du règlement des différends par la voie diplomatique et ne s'est jamais distancié de la table des négociations, a fait remarquer le ministre iranien des Affaires étrangères. Naplouz, deux Israéliens ont été tués lors d'une nouvelle opération palestinienne. Et manœuvre russo-sino sud-africaine, la phase active débute. C'étaient les principaux titres, en voici le journal. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que l'Irak ne devait pas être utilisé comme une base pour fomenter des complots et menaces contre ses voisins. La République islamique d'Iran soutient les efforts du gouvernement irakien pour la reconstruction économique et militaire de ce pays, a déclaré Raisi lors d'une rencontre avec le ministre irakien de la Défense, Sabet Mohammad Saïd al-Abbasi à Téhéran, dimanche 26 février. L'Iran et l'Irak partagent des frontières communes d'amitié et de coopération. La République islamique d'Iran considère la sécurité de l'Irak comme sa propre sécurité et soutient le renforcement de la stabilité et de la sécurité, a-t-il assuré. Le ministre irakien de la Défense a pour sa part salué le soutien de l'Iran à la nation irakienne lors de l'invasion étrangère du pays et de sa bataille contre les terroristes Daesh. Bagdad ne permettra pas à des éléments opportunistes de menacer les frontières et les territoires de l'Iran et de l'Irak ou de susciter l'insécurité, a-t-il fait savoir, souhaitant la poursuite du soutien de l'Iran à la reconstruction de l'Irak ravagé par la guerre. Lors d'une réunion samedi avec son homologue irakien, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Rarai Ashtiani, a déclaré que l'ingérence des pays transrégionaux au Moyen-Orient visait à assurer la sécurité du régime israélien. Les États transrégionaux ne cherchent jamais à promouvoir la démocratie, mais créer des crises, des discordes et des conflits inutiles, a averti le ministre iranien de la Défense. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré que la République islamique a toujours été en faveur du règlement des différends par la voie diplomatique et ne s'est jamais distancié de la table des négociations. Amir Abdollahian l'a noté lors d'une interview exclusive avec la chaîne de télévision iranienne Al-Alam dimanche 26 février. Évoquant sa récente visite à Bagdad et ses rencontres avec de hauts responsables irakiens, dont son homologue Fouad Hossein, il a fait savoir que celui-ci était revenu d'une visite précédente à Washington avec un message pour l'Iran. Ce message dit que la partie américaine est prête à un accord avec l'Iran sur la relance de l'accord nucléaire de 2015, le plan d'action global conjoint. Nous avons toujours accueilli favorablement la voie de la diplomatie et de la négociation desquelles nous ne nous sommes jamais éloignés, a souligné le ministre iranien. Téhéran est disposé à travailler pour atteindre un accord sur le PAGC avec tous ses signataires dans le cadre des négociations menées dans la capitale autrichienne de Vienne et sur la base des messages échangés entre Téhéran et Washington par le biais de documents officieux. Le chef de la diplomatie iranienne a souligné qu'un tel accord devait garantir les intérêts de toutes les parties et tenir compte des lignes rouges de la République islamique d'Iran. Si la partie américaine agit de manière réaliste dans le cadre du message qu'elle a envoyé et si elle évite de répéter ses précédents propos médiatiques hypocrites, nous ne serons pas loin d'un accord, a déclaré Amir Abdullayan. Le problème, cependant, est que les Américains émettent toujours des messages diplomatiques et médiatiques contradictoires. Je veux dire qu'ils envoient des messages diplomatiques positifs et émettent d'autres remarques dans les médias. Nous espérons que, cette fois-ci, les Américains agiront de manière réaliste et éviteront d'être hypocrites, a-t-il noté. L'Iran a prouvé au monde la nature pacifique de son programme nucléaire en signant le plan d'action global conjoint avec 6 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus l'Allemagne. Cependant, le retrait unilatéral de Washington en mai 2018 et la réimposition de sanctions contre Téhéran ont laissé l'avenir de l'accord dans les limbes. Les négociations entre les parties à l'accord ont débuté à Vienne en avril 2021 avec l'intention de ramener les États-Unis dans l'accord et de mettre fin à leur campagne de pression maximale contre l'Iran. Les discussions sont cependant au point mort depuis août 2022 en raison de l'insistance de Washington à ne pas lever toutes les sanctions anti-iraniennes et à offrir les garanties nécessaires du respect de ses engagements. Lors d'une opération d'un combattant palestinien, 2 Israéliens ont été tués dans le sud de la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée, ont fait savoir dimanche 26 février les sources d'information. Un jeune palestinien a ouvert le feu sur ces 2 Israéliens dans la colonie de Avara, dans le sud de Naplouse. Suite à cette opération, l'armée israélienne a encerclé Avara dans le but de trouver l'auteur de cette fusillade. L'opération anti-israélienne a été menée en réaction au raid barbare des forces d'occupation du régime sioniste contre la ville de Naplouse, qui a causé la mort d'au moins 11 Palestiniens et laissé plus de 102 blessés. Dans ce drapeau, les mouvements de la résistance palestinienne, dont le Hamas et le djihad islamique, ont salué l'opération dans la colonie de Avara, affirmant qu'il s'agissait d'une réaction naturelle aux crimes brutaux du régime sioniste contre les Palestiniens. Le djihad islamique a déclaré que cette opération a été menée conformément à la promesse de vengeance du sang des 2 commandants des brigades Al-Rots tués par les forces israéliennes à Naplouse. Le chef d'état-major des armées françaises a mis en garde contre la pénurie de munitions dans les pays occidentaux en raison de l'augmentation des livraisons des armes à Kiev, précisant que l'Occident doit revoir sa politique en ce qui concerne les stocks de munitions. Les armées occidentales, y compris la France, doivent revoir leur politique de stock de munitions. Des stocks insuffisamment dotés, c'est un pari qu'on a pu envisager alors que nous étions confrontés à des guerres choisies. Face au risque de guerre imposée, ce type de pari n'est plus tenable, a déclaré dimanche le général Thierry Bucard lors d'une interview accordée à l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche. Dans ce drapeau, le membre de la Commission des affaires étrangères de la Défense et des Forces armées du Sénat français, Cédric Perrin, a déclaré que Paris ne pouvait plus livrer des armes à Kiev car l'armée française n'avait pas assez d'armes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les alliés occidentaux de ce pays, dirigés par les États-Unis, ont muni Kiev d'une grande quantité d'armes avancées et imposé à la Russie une série de sanctions, des mesures qui, selon Moscou, ne feront pourtant que prolonger le conflit. Les bâtiments de guerre de Russie, de Chine et d'Afrique du Sud ont commencé la phase active des manœuvres menées dans l'océan Indien. Cela a pour but d'améliorer la coordination des militaires des 3 pays en vue d'assurer la sécurité dans la région. les navires sud-africains, chinois et russes participant aux manœuvres navales Mossi 2 dans l'océan Indien ont entamé la phase active des exercices, a annoncé le 25 février le ministère sud-africain de la Défense. Les équipages des trois pays ont entamé l'exécution des opérations élaborées lors des préparatifs. La phase active des exercices s'achèvera le 27 février. Elle prévoit des tirs d'artillerie, le repoussement d'attaques aériennes de l'ennemi fictif, des actions antiterroristes, des manœuvres techniques et des assistances techniques à un navire en détresse. Selon un responsable de la défense sud-africaine, le but des manœuvres consiste à améliorer la coordination et la coopération entre les marines de guerre des trois pays participants. Les exercices Mossi 2 serviront de plateforme pour un échange de connaissances militaires, de savoir-faire et d'expériences opérationnelles pour les militaires de Russie, de Chine et d'Afrique du Sud. La Russie a engagé dans ses manœuvres la frégate amiral Gorshkov et le pétrolier moyen Kama, la Chine un destroyer, une frégate et un navire auxiliaire, et l'Afrique du Sud une frégate et deux navires auxiliaires. Au début des exercices, Tan Kefei, le porte-parole du ministère chinois de la Défense, avait déclaré que ceci renforcerait la capacité de toutes les parties concernées à assurer conjointement la sécurité maritime. Voilà, ainsi s'achève le journal. Merci de l'avoir suivi. Restez à l'écoute du commentaire politique. Réunion israélo-palestinienne en Jordanie. La résistance s'oppose. Les groupes de résistance palestiniens à Jenin ont condamné samedi 25 février la décision de l'autorité autonome palestinienne de participer à la réunion d'Araba en Jordanie, la décrivant comme un échec politique et sécuritaire. Les groupes de résistance palestiniens actifs à Jenin ont annoncé lors d'une conférence de presse que l'autorité autonome s'était une fois de plus fait avoir par Washington lors d'une réunion organisée à Rabat, en Jordanie, sous l'égide des États-Unis. Il vaudrait mieux que les responsables de l'autorité autonome évoluent vers l'unité nationale et une cohésion dans le champ de bataille à ce stade, car cette réunion aura lieu en même temps que les sionistes poursuivent sans arrêt l'implantation des colonies et le massacre du peuple palestinien, ont regretté ces groupes. Il convient de rappeler que lors d'une dernière exaction des sionistes à Naplouse, 11 Palestiniens ont été tués et plus de 102 autres blessés. Les groupes de résistance soulignent par ailleurs qu'une telle réunion ne pouvait garantir les intérêts de la nation palestinienne et qu'elle rendrait en revanche un service gratuit au régime sioniste. Il précise qu'au lieu d'un accord de sécurité avec Israël, l'autorité autonome devrait franchir vers une unité nationale. Un responsable politique israélien a déclaré sur le canal 12 de la télévision israélienne que les participants à la réunion qui se tient à la station Balner Aqaba, mer Rouge, examineraient la capacité de l'autorité autonome palestinienne à assumer des responsabilités dans des zones telles que Jenin, qui échappent à son contrôle depuis un certain temps. Sous couvert de l'anonymat, un autre haut responsable israélien a allégué à la radio que la réunion d'Araba s'était fixée pour objectif de renforcer la confiance mutuelle pour travailler ensemble, calmer la situation et empêcher toute escalade pendant le mois sacré du Ramadan. Des milliers de Palestiniens sont descendus dans la rue dimanche matin, manière d'exprimer leur opposition à la participation de l'autorité autonome palestinienne à la réunion d'Araba. Dans les images partagées sur les réseaux sociaux, on peut voir des Palestiniens du camp de Jenin qui sont descendus dans la rue pour montrer leur opposition à la présence des représentants de l'autorité autonome dans la réunion d'Araba. Les habitants du camp d'Al-Zeisha à Bethléem ont également condamné la réunion de sécurité d'Araba. l'Alliance démocratique, la Coalition populaire pour le changement et le mouvement des jeunes Palestiniens ont appelé les Palestiniens à manifester pour s'opposer à la réunion d'Araba.
Bonjour à tous, bienvenue ici sur les studios de Presse TV à partir de la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour de nouveau, nos regards vont vers la Palestine et les 11 morts survenus il y a peu. Nous proposons tout d'abord un reportage qui va donc faire le point sur la situation pour par la suite faire venir nos invités. Tout de suite donc, je vous propose notre reportage.
Les forces israéliennes ont lancé un raid contre Naplouse le mercredi 22 février dans la matinée qui a fait au moins 11 morts et 102 blessés côté palestinien, dont beaucoup se trouvent dans un état critique. Les affrontements sanglants de ce mercredi ont éclaté après que les forces israéliennes ont pris d'assaut Naplouse avec des dizaines de véhicules blindés et bloqués toutes les entrées de la ville. Ils ont ensuite encerclé une maison où se trouvaient deux combattants palestiniens, Hossam Islim et Mohammad Abdul Khan, qui ont été tués sous les balles des militaires israéliens. Selon les témoins oculaires, les forces israéliennes ont ouvert le feu aveuglément sur les habitants de la ville. Les forces d'occupation tiraient sur les voisins, les gens dans leurs maisons et les gens qui s'occupaient de leur quotidien ont-ils déploré. Ahmed Jibril, directeur des services d'ambulance et d'urgence à la Société palestinienne du Croissant Rouge à Naplouse, a déclaré que les forces israéliennes empêchaient le personnel médical d'atteindre la zone assiégée. Le dernier massacre porte le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes dans les territoires occupés depuis le début de 2023 à 61 personnes, dont 13 enfants. L'attaque meurtrière survient également moins d'un mois après que les forces israéliennes ont attaqué la ville de Jenin et son camp de réfugiés voisins dans le nord de la Cisjordanie occupée, tuant 10 Palestiniens dans l'un des raids les plus meurtriers depuis des années. Le mouvement de résistance islamique de la Palestine, le Hamas, basé à Gaza, a condamné ce qu'il a appelé l'exécution extrajudiciaire brutale de Palestiniens en Naplouse. Hicham Ghassem, haut responsable du bureau politique du Hamas, a déclaré que la bonne réponse au massacre était de renforcer les combattants de résistance dans tous les territoires occupés de la Palestine et de lancer des attaques de représailles contre les forces et les colonnes israéliennes. Un porte-parole de la branche armée du Hamas a averti dans un court communiqué que la résistance palestinienne manquait de patience. La résistance à Gaza surveille l'escalade des crimes commis par l'ennemi contre notre peuple en Cisjordanie occupée et perd patience, a averti Abu Obeida, porte-parole de la branche armée du Hamas.
Nous revoilà sur les plateaux. Donc, le sujet, la Palestine, ce qui s'est passé à Naplouse. Tout d'abord, nos invités. Première invitée que j'accueille, Madame Aïssa Armidani, expert en géopolitique, notamment sur les questions du Moyen-Orient. Bonjour, Madame Midani.
Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour à toute l'équipe et à tous les téléspectateurs, à Maître Chami aussi.
Merci beaucoup. Notre deuxième invité, vous l'aurez donc compris, étant Monsieur Maître Chami. Bonjour Maître Chami, ravi de vous avoir sur nos plateaux aujourd'hui.
Bonjour à vous tous, merci pour votre accueil et bonjour à tous vos téléspectateurs ainsi qu'à bientôt.
Alors vous l'aurez compris, hein, Presse TV couvre des sujets qui ne sont pas forcément couverts par les autres médias mainstream, notamment la question palestinienne. Si ceux de nos auditeurs qui suivent nos débats savent que mercredi nous avions déjà eu donc un débat concernant la question palestinienne et la résolution de l'ONU à 24h-48h après ce sujet est arrivé donc les meurtres à Naplouse. Madame Issarmidani, j'ai envie de commencer par vous parce que vous étiez notre invitée ce mercredi pour ce débat concernant la résolution de l'ONU. Au vu des derniers faits de ce qui s'est passé donc, en Palestine, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter à ce qui a été dit déjà au débat ? C'est vraiment malheureux, les médias mainstream parlent des un an du conflit en Ukraine, alors qu'ici on est au-dessus de un an de conflit, au-dessus du nombre de morts également que le Moyen-Orient a énormément connu. Et pourtant un grand silence, quand on regarde les réseaux sociaux, à part les pro-palestiniens, un grand silence de la part des médias, un grand silence de la part des gouvernements européens. On a quand même eu une réaction à des pays musulmans, il y a eu une forte réaction malgré tout des pays musulmans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au vu des différentes réactions internationales ?
En fait, pour la Palestine, ça fait 70 ans, depuis 48 que les massacres continuent du côté les Israéliens commettent des massacres contre le peuple palestinien. C'est en fait justement je donne suite à ce débat que nous avons eu. Ce sont les pays impérialistes américains, en britannique d'abord, français après et américains après, qui ont créé et qui continuent à faire subsister l'État fantoche d'Israël sur les débris du peuple palestinien, en utilisant en fait, en faisant. Et tous les crimes qu'ils font sont plutôt soutenus par ces pays. Le peuple palestinien résiste et se bat depuis ce temps-là. Donc, le silence des pays occidentaux n'est pas tout à fait, c'est pas un hasard, mais c'est un silence complice, c'est un silence qui encourage les crimes israéliens. En fait, c'est ce massacre, ce dernier massacre, en fait, déjà à Naplouse, après celui de Jenin, celui de Ariha, qui a été suivi aussi par Al-Khalil hier matin. Donc, tout ceci va dans le sens d'une agression permanente, systématique, contre le peuple palestinien, pour le mettre dehors, en fait. Les Israéliens font tout pour pousser les Palestiniens. L'État israélien fait tout pour pousser le peuple palestinien à l'exil pour s'approprier ses terres. Mais effectivement, la résistance du peuple palestinien, qui est acharnée depuis des années, et qui grandit et qui a quand même qui déçoit, je dirais, le rêve israélien qui était toujours de dire les vieux meurent et les jeunes oublient, en fait, montre que ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, la plus grande, en fait, très violente déterminée résistance est menée par la jeunesse, par la jeune génération qui résiste et qui est déterminée à continuer le combat. De là, je peux dire effectivement les derniers mots des combattants c'est des combattants de la liberté qui sont tombés. Aussi bien à Jenin, à Naplouse, etc., qui est un appel solennel à l'ensemble de la population palestinienne de continuer la résistance, de continuer à s'opposer à cette occupation ignoble qui est soutenue par les forces impérialistes dans le monde et jusqu'à la libération totale de la Palestine.
Merci,
ça,
Madame Midani.
C'est un point qui est très important.
Alors oui, les Palestiniens ont quand même énormément, et la résistance palestinienne a énormément changé sa politique de combat avec l'entité sioniste, qui sont les occupants et les colonisateurs, et par le biais de ce genre d'action, s'en prennent directement aux droits de l'homme. Ils ont décidé depuis un certain temps, hein, c'est pas nouveau, ça n'a pas commencé cette année ni l'année dernière, il y a environ une 5-6 années, on voit la résistance prendre en image les différents quartiers donc, de la Palestine, lorsque notamment donc, l'antisioniste attaque les Palestiniens. Nous avons pu voir ce qui s'est passé à Naplouse grâce à ça, les vidéos sont visibles par le biais de Presse TV, mais également par le Twitter. Maître André Chamy, on a eu donc cet appel dont Mme Midani vient de parler concernant donc la fosse au Lion, donc cette dernière branche de la résistance qui se veut un peu indépendante, qui est donc où on voit beaucoup de jeunes rentrer dans cette résistance parce que leur discours est un écho à leur propre douleur et à leur propre envie de résister. Ils ont demandé donc au peuple palestinien d'aller dans les rues. Qu'est-ce que vous avez envie de dire donc à ces dernières actions, en sachant que d'après nos sources, ce vendredi matin, donc les Palestiniens étaient nombreux dans les rues pour bien montrer que la résistance, elle, ne se taisait pas et que les Palestiniens ne fuyaient pas donc leur maison. Qu'est-ce que vous avez envie de dire donc à cette résistance palestinienne ?
Vous savez, cette résistance palestinienne, c'est le fruit de 70 ans de lutte. Mais aussi, c'est le résultat de l'échec de l'autorité palestinienne qui était censée représenter le peuple palestinien, puis finalement qui s'est fourvoyé dans la voie de la négociation depuis les accords d'Oslo, qui aujourd'hui constituent un échec total sur le plan diplomatique, mais également sur la question palestinienne et sur la question des droits du peuple palestinien à l'autodétermination, à avoir son propre territoire, à avoir ses propres frontières et à avoir surtout une reconnaissance internationale. Aujourd'hui, je rappelle au passage que malgré les résolutions de l'ONU qui reconnaissent au peuple palestinien, si j'ose dire, l'autre moitié de la Palestine, en disant la solution des deux États qui a été adoptée en son temps, il y a une partie qui appartiendrait à l'entité sioniste et l'autre partie qui appartiendrait au peuple palestinien. Et même cette partie-là n'a pas été respectée et la communauté internationale n'a pas su, il n'a pas pu et n'a pas voulu le faire respecter. C'est-à-dire même à minima, cette partie-là n'est pas respectée. Par conséquent, il n'y a pas déjà d'espoir au peuple palestinien ou pour le peuple palestinien d'avoir sa propre entité territoriale, en tout cas une intégrité territoriale, ne serait-ce que sur le territoire qui a été reconnu par les résolutions de l'ONU. À partir de là, il y a un mouvement de résistance qui s'est organisé, sauf que ce mouvement de résistance, par des aléas politiques, c'est comme ça, c'est ainsi que je pourrais l'appeler, c'est-à-dire une sorte de discordance entre les différentes factions palestiniennes, a abouti à un déchirement qui a duré pendant des décennies. Et avec l'arrivée de deux grands mouvements, c'est-à-dire le Hamas et le djihad palestinien et le djihad islamique, grâce et notamment à l'appui de l'axe de la résistance, à la tête duquel la République islamique d'Iran, la Syrie, le Hezbollah et bien d'autres qui sont aujourd'hui en force d'appui pour cette résistance palestinienne, évidemment, il y a quelque chose qui a émergé. Et cette émergence a donné de l'espoir au peuple palestinien parce que le territoire de Gaza s'est transformé en laboratoire qui permet de démontrer que si un peuple résiste, eh ben, il peut arriver à consacrer un début d'État. Aujourd'hui, le début de cet État démarre à Gaza. Et Gaza est devenu en quelque sorte une forteresse infranchissable pour l'entité sioniste. À partir du moment où vous donnez de l'espoir à une population, et à partir du moment où vous dites à ceux qui sont en territoire occupé, c'est-à-dire les Palestiniens de 48 qui sont aujourd'hui sur le territoire attribué, entre guillemets, ou que c'est auto-proclamé par l'entité sioniste, mais également ceux qui se trouvent en Cisjordanie. On leur donne de l'espoir, mais on leur donne l'envie de résister, on leur donne l'horizon qui peut les attendre si la résistance devait atteindre son apogée par des guerres de rue et par l'émancipation du peuple palestinien et surtout de la jeunesse palestinienne à travers ce qu'on appelait aujourd'hui ou ce qu'on appelle aujourd'hui les loups solitaires. Les loups solitaires finissent par se regrouper, finissent par se donner un nom, finissent par se donner une image et finissent par se donner aussi un élan de résistance indestructible. Et à mon avis, c'est cette jeunesse-là qui a pris la voie de cette résistance et qui a commencé à être la tête de pont, pour ne pas dire la pointe d'une flèche qui perce de plus en plus au sein de l'entité sioniste et qui fait mal, et qui fait très mal. Et tous les jours, les opérations le démontrent. Et à
Merci.
Mon sens, ça va.
Merci, Monsieur André Chamy.
Est-ce qu'on aboutisse à la libération totale du peuple palestinien et du territoire palestinien.
Merci, Maître André Chamy. Pour revenir sur vos points donc, de cette nouvelle résistance, Madame Midani, on n'a pas eu seulement l'attaque de la Palestine. La Syrie, Damas, a été attaquée également la semaine dernière, juste après un séisme qui a été extrêmement meurtrier. Et un second également par la suite, enfin un troisième qui est également arrivé là, par la suite la semaine dernière. On entend pour l'instant la résistance très silencieuse contrairement à l'année 2022. Est-ce qu'il se prépare? Est-ce que vous sentez, vous dans vos contacts au Moyen-Orient, notamment en Syrie, parce que le Hezbollah ne s'est pas encore exprimé. Et pourtant, on sait, ils ont envoyé en 2022, on a vu des vidéos de préparation de missiles, de drones, etc. On sait que cette résistance se prépare à une confrontation. Est-ce que ce silence actuel, qui n'est pas vraiment un silence, on sait qu'ils sont bien là, mais le fait qu'ils ne répliquent pas pour l'instant veut dire qu'ils se préparent à quelque chose, que quelque chose se prépare à l'heure actuelle pour mettre fin donc, à cette entité sioniste qui se montre de plus en plus cruelle et qui donne de plus en plus de droits à faire preuve d'action, encore une fois, qu'on le rappelle ici dans cette émission toujours, qui sont contrairement à qui s'en prennent directement à l'humanité. Je vous en prie, Mme Midani.
En fait, dès les premières heures, les condamnations se sont succédées, par exemple la condamnation de Hezbollah pour cette attaque sioniste contre la ville de Naplouse, contre les résistants de Naplouse, je peux dire, et a été suivie aussi du soutien et de l'État syrien. Il y a eu aussi des déclarations de la République arabe islamique aussi qui condamnaient ces agressions. Les différentes formations libanaises de la résistance ont été aussi présentes. Je dirais aujourd'hui, vous voyez par exemple au Yémen une très très grande manifestation populaire qui a été pour le soutien des Palestiniens et en même temps aussi pour déplorer et condamner les agressions saoudiennes ou plutôt américaines par main saoudienne contre la résistance yéménite. Tout ceci montre à quel point effectivement les peuples, le cœur des peuples arabes vibrent avec les Palestiniens et les soutiennent et puis soutiennent leur résistance et en fait bon, je voudrais dire quand même l'axe de la résistance aussi, le Hamas a montré que de toute façon a montré ses dents, je peux dire que sa patience arrive à sa fin.
Et il y a eu aussi ce matin, vous pensez à une réplique militaire, Madame Midani?
Hier matin, il y a eu deux salves de missiles qui ont été lancées par Gaza sur les colonies qui sont aux alentours. On a entendu les sirènes siffler dans toutes les colonies aux alentours de Gaza. Donc, en fait, il y a effectivement, donc, Et puis le djihad islamique, bien sûr, en fait, donc ça c'est normal puisque c'est ils sont directement concernés. Mais il y a eu des réponses, il y a eu des ripostes et la Syrie, malgré le fait qu'elle était, elle est complètement occupée par. Moi, je parle de l'agression contre du massacre à Naplouse. Mais c'est vrai que l'agression israélienne contre la Syrie, il n'y a pas eu beaucoup de voix pour la condamner, en fait. Ça, c'est vrai aussi, si on veut lier les deux aspects. Mais je crois qu'il faut voir quand même que derrière tout ça, ce sont les Américains qui donnent des ordres profitant du séisme. Et du fait que en Syrie, on est occupé par le séisme, que mondialement, on est occupé aussi par le séisme. Les Américains en ont profité pour continuer la guerre contre l'axe de la résistance. Il y a eu justement la réactivation de Daesh à Palmyre, du côté à l'est de Palmyre. Justement, dans la Badia, il y a eu 53 morts quand même, qui ont été tués par Daesh. Il y a eu cette agression israélienne contre la ville de Damas, contre des bâtiments d'habitation civile. Donc là, c'est aussi un pas qui est en plus avancé dans l'escalade de l'agression. Il y a eu ces massacres qui ont été perpétrés contre les Naplouse, contre Jenin, cette attaque saoudienne contre la résistance yéménite.
Et alors,
aussi, tout ceci
Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce que vous pensez donc qu'il pourrait y avoir une préparation d'attaque du même style que la dernière attaque à Gaza, la dernière grande attaque à Gaza? Est-ce que vous pensez qu'une telle grande attaque pourrait se profiler à l'horizon et en telle préparation? Vous pensez que, vu la situation politique, qu'on n'en parle pas dans les actualités, la situation politique instable au sein même de l'entité sioniste, puisque des manifestations ont lieu depuis plusieurs semaines à l'heure actuelle, et on parle de manifestations parfois même violentes dans l'entité sioniste même, est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte d'attente pour voir comment les choses vont se passer malgré les attaques et de se défendre au cas par cas? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir proche, en fait, et en quelques mots, s'il vous plaît, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, en quelques mots, de l'avenir proche de la situation de la résistance palestinienne? Madame Minani.
En fait, l'escalade des attaques israéliennes continue, pas sur le plan juridique aussi, puisqu'ils veulent, ils sont en train de s'attaquer aux détenus, d'enlever les papiers et les papiers d'identité des détenus. Ils sont en train de détruire les maisons des personnes qui ont des familles, des personnes qui ont pu faire des actes héroïques de résistance, etc. Le tout fait montrant que l'entité sioniste pousse à une escalade dans le sens de faire éclater une guerre, hein, je dirais, ou quelque chose, une explosion dans la région du Moyen-Orient. Si on peut parler effectivement de cette explosion, parce que ça arrange les Américains, parce que ça rentre aussi dans le cadre de cette violente agression israélienne aussi qui vise l'Iran. Et donc tout l'axe de la résistance est concerné. Donc,
Madame Midani. Merci Madame Midani. C'est sur ces mots donc qu'on va conclure notre débat. Le débat fait 25 minutes, c'est toujours assez peu, surtout pour des sujets aussi importants. Je remercie donc nos experts, donc Madame Aïssar Midani. Merci. Et Maître André Chami pour leur participation à ce débat qui concernait donc la Palestine, les dernières attaques réalisées par l'entité sioniste et les meurtres à répétition et les actes illégaux. Je vous remercie, moi, pour nous suivre. Je vous invite à également suivre nos programmes sur notre site, mais également sur nos plateformes de réseaux sociaux. Vous pouvez nous retrouver sur Medium, sur Telegram ou encore sur VK. Je vous dis donc à bientôt pour un autre sujet du débat, ici, à partir de la capitale iranienne, Téhéran.
L'Iran est son septième art. Kamal al-Molk dans l'imaginaire des Iraniens. L'aura du dernier peintre de cour. Il est difficile de reconstituer la biographie et de faire la part de légende dans la vie de Kamal al-Molk, 1848-1940. Il a initié en Iran, à la fin du XIXe siècle, un important courant de peinture dite académique dans le pays, mais que nous avons choisi de dénommer principalement peinture du réel pour rendre compte de la spécificité de ce courant pictural aux multiples visages, oscillant entre le pittoresque orientaliste, l'émotion picturale romantique et la concision du reportage naturaliste. Parallèlement à la diffusion des techniques photographiques puis cinématographiques en Iran, le premier daguerréotype a été commandé par Nasreddin Shah Qajar en 1849, 10 ans seulement après son invention par Louis Daguerre, lequel en avait fait l'annonce officielle à Paris en 1839. La peinture du réel s'est peu à peu imposée à la cour des monarques Rajar, puis à tout le pays. Si l'héritage artistique de Kamal al-Molk fait aujourd'hui le plus souvent débat, certains artistes vont jusqu'à accuser le maître de trahison, estimant en effet que Kamal al-Molk, pris dans un complot franc-maçon, aurait porté atteinte à la culture iranienne en éloignant plusieurs générations d'artistes de la miniature et des arts traditionnels. L'aura qui entoure le personnage a mobilisé l'imagination populaire au point d'ériger ce dernier peintre de cour au panthéon des artistes les plus connus en Iran à l'époque contemporaine. Né à Kashan autour de 1848, Mohammad Ghafari, dit aussi Kamal al-Molk, était issu d'une famille d'artistes. Son oncle, Mirza Abul Hassan Ghafari, Sani al-Molk, fut au XIXe siècle un peintre reconnu par ses portraits et ses aquarelles. Il mit en place la section de peinture à l'école polytechnique Darul Funun dans les années 1850. Son père, Mirza Bozorg Ghafari Kashani, fut aussi un peintre important, ainsi que son frère, Abu Torab Ghafari, peintre et lithographe. Adolescent, Kamal al-Molk entra à Darul Funun, où il commença à s'initier à la peinture auprès de son oncle, Sani al-Molk, 1814-1866, puis du successeur de celui-ci, Mozayen al-Dodeh, 1847-1923. L'œuvre de ce dernier maître, qui avait visité l'Europe et étudié les tableaux des artistes occidentaux, était dite « Farangi Saz », c'est-à-dire « faite à la manière européenne ». Kamal al-Molk étudia à Darul Funun avant que Nasreddin Shah ne remarquât l'un de ses tableaux, un portrait de Ehtezad Saltani. Lors d'une visite, l'école Darul Funun était située juste derrière le palais royal et ne l'appelle à la cour. Kamal al-Mulk s'installa officiellement à la cour autour de 1880. Peu de temps après, en 1883, il fut désigné Narashbashi, peintre en chef. Nasser Eddin Shah lui donna également en 1893 le titre honorifique de Kamal al-Mulk, perfection de la terre, sous le nom duquel il signera ensuite ses tableaux. Durant son long service auprès de Nasser Eddin Shah Qajar, Kamal al-Mulk a produit des œuvres de plus en plus élaborées. Jusqu'en 1896, année de l'assassinat du Shah, ces tableaux représentaient principalement les personnalités de l'entourage princier et la vie à la cour. Il a peint aussi fréquemment des scènes du camp royal dont il faisait partie, des vues de jardin, des scènes de chasse et de nombreuses compositions architecturales avec les bâtiments et palais royaux. Son travail à cette époque dénote son inspiration à approfondir les techniques de la peinture à l'huile. Il a également expérimenté par lui-même les lois mathématiques et géométriques de la perspective. Dans l'ouvrage « L'école de Kamal al-Mulk », l'auteur anonyme de la préface écrit que son utilisation du pinceau et l'application de couleurs claires et vives étaient dans la continuité de la tradition picturale Zand et Rajar, mais que par sa virtuosité et son élégance, Kamal al-Mulk a occupé une place à part parmi ses contemporains. Après la mort de Nasser Eddin Shah en 1896, les conditions de travail à la cour de son successeur, Muzaffar Eddin Shah, étant devenues difficiles, Kamal al-Mulk partit pour l'Europe en 1898, à l'âge de 50 ans environ. Ce voyage, qui a duré 3 ans, lui permit de mieux étudier les techniques de maîtres comme Rembrandt, le Titien et Léonard de Vinci. Quelques copies nous sont parvenues de cette période qui témoignent de son attachement pour les œuvres de ses maîtres. Il a visité surtout les musées de Florence, le Louvre et le château de Versailles et a séjourné à Vienne. Plusieurs sources affirment également qu'il se serait lié durant son séjour à Paris au peintre Henri Fantin-Latour, 1836-1904. Mais Kamal al-Mulk a effectué un portrait du peintre français en 1900. C'est un artiste au fait de sa carrière que Kamal al-Mulk rencontra lors de son séjour à Paris à la fin des années 1890. L'influence qu'a pu avoir Fantin-Latour sur Kamal al-Mulk, qui aurait fréquenté son atelier, semble importante mais reste difficile à mesurer. De même que Kamal al-Mulk, Fantin-Latour a été contemporain des impressionnistes. Pourtant, de même que Kamal al-Mulk, il n'a pas été un impressionniste lui-même, mais bien plutôt le continuateur discret de Delacroix. Muzaffar Eddin Shah, lors de sa première visite en Europe en 1900, a demandé à Kamal al-Mulk de retourner en Iran. Celui-ci y retourna en 1901. Mais les troubles et intrigues s'étant développés à la cour, ainsi que l'échec du second mariage du peintre avec Anna Ravomsultaneh, irano-arménienne, ayant grandi en Autriche, le poussèrent à repartir 5 ans plus tard, en 1903, pour l'Irak. De ce voyage, 1903-1905, sont issues plusieurs de ses œuvres les plus célèbres. L'orfèvre de Bagdad et son apprenti, place de Karbala et l'arabe endormi. À son retour d'Irak, Kamal al-Mulk aurait sympathisé avec les constitutionnalistes. Des tableaux, comme les portraits de Sardar Assad Bakhtiari et d'Azad al-Mulk, deux personnages marquants de la révolution constitutionnelle de 1906, sont souvent cités comme marque de son nouvel engagement. Il refusa à cette époque de peindre le portrait de Mohammad Ali Shah Qajar, succédant à son père Muzaffar Eddin Shah en 1907. Les années qui suivirent la révolution constitutionnelle ont été marquées par une intense activité culturelle. Dans ce contexte favorable, le peintre fonda en 1911 l'École des Beaux-Arts. Cette école est la première en Iran à être dédiée uniquement à l'enseignement des arts, aussi bien traditionnels que d'influence européenne. Après la proclamation de la dynastie Pahlavi en 1925, Kamal-ul-Mulk se serait trouvé en désaccord avec Reza Shah et surtout avec certains de ses ministres. Kamal-ul-Mulk aurait en effet refusé de confectionner les portraits officiels de la nouvelle famille impériale. Devant les frictions croissantes, l'opposant au gouvernement de Reza Shah, Kamal-ul-Mulk préféra se retirer et céder en 1928 la direction de l'école à un de ses élèves, Esmaïl Ashtiani, qui était déjà son assistant à la tête de l'école. Un autre de ses disciples, Ali Muhammad Heydarian, considéré comme un bon portraitiste, serait quant à lui devenu le peintre officiel de la famille Pahlavi. Kamal-ul-Mulk vécut ensuite à Hossein-Abad, près de Neychâbour, dans un de ses domaines où il décéda le 18 août 1940 à l'âge de 93 ans environ. Mohammad Reza Shah Pahlavi ordonna en 1962 la confection d'un mausolée en hommage à Kamal-ul-Mulk dans la ville de Neychâbour, à côté de celui du poète Attar.